Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous en arrivons à la tour de Babel. Voici encore un événement très intéressant à contempler et à expliquer, parce que c'est pratiquement la situation de l'Église aujourd'hui, des pays du monde bien sûr, mais de l'Église. Et Dieu, bien évidemment, donne le remède, ce sera avec Abraham. Je pense que vous connaissez l'histoire de la tour de Babel. La Genèse nous décrit le développement du genre humain, avec les bons, les mauvais. Il y a des générations de mauvais, comme il y a dans l'Église des générations de saints. Non pas qu'on ne puisse pas se convertir, non pas qu'on soit nécessairement déterminé par la malice des parents. La preuve, nous en donne saint Jean Chrysostome, c'est que les Ninivites, les habitants de Ninive, firent pénitence et que Dieu leur pardonna, ils se convertirent. Ils étaient pourtant originaires de cette région et donc de cette famille que Dieu a réprouvée et qu'il a puni. Réprouver, non, ce n'est pas le terme, que Dieu a puni. Et avant qu'on en arrive à cet épisode très célèbre de la tour de Babel, que les hommes construisent le plus haut possible dans leur orgueil, après avoir fabriqué des briques cuites au soleil, puisqu'il n'y avait pas de pierre dans la région, et Dieu les punit en créant la diversité des langues, ce qui fait que les hommes ne peuvent plus continuer cette entreprise colossale parce qu'ils ne se comprennent plus, et donc ils se dispersent. Mais avant d'en arriver là, la Genèse nous raconte l'histoire de Nemrod, qui fut le premier à dominer un peuple, à établir un royaume ou un empire de domination. Il fut puissant, nous dit l'Écriture sainte. Il était robuste, c'était un chasseur. Là, on voit bien que l'Écriture sainte le prend en mauvaise part. En tout cas, les pères de l'Église le prennent en mauvaise part. Il fut à l'origine du royaume de Babylone. Ce Babylone qui va donner Babel la division. C'est de cette terre que sort Assur et qui édifia Ninive. On est là dans une cité très riche au point de vue matériel, mais avant de vous décrire cela, je veux revenir sur le fait que Nemrod est le premier, on peut dire, tyran. Voici le commentaire de saint Jean Chrysostome. Pas de sujet, pas de roi, voilà bien la vraie liberté. Mais la servitude la plus lourde est celle qui domine des hommes libres. Voyez les ravages de l'ambition, voyez la force du corps dépassant ses limites, jamais satisfaite, aspirant à la gloire. Ce n'était pas pour protéger et défendre que Nemrod se faisait des sujets, mais il construisait des villes pour dominer. Vous avez bien entendu, saint Jean Chrysostome nous dit « pas de sujet, pas de roi, voilà bien la vraie liberté ». Vous me direz, mais s'il n'y a pas de roi, comment peut-il y avoir l'unité? C'est un rêve anarchique. C'est pourtant bien ce que Dieu voulait à l'origine. Dieu a fait des hommes libres, tous rois. Et si les rois qui dominent sont devenus nécessaires, c'est soit pour réprimer la malice, soit pour subvenir à la faiblesse. Réprimer la malice, c'est pourquoi Noé condamne les fils de Cam à la servitude, et saint Jean Chrysostome nous dit que cette condamnation à la servitude était un frein nécessaire de la volonté pervertie. Bien sûr, il aurait toujours fallu un chef, mais un chef qui ne domine pas sur des hommes libres, mais qui obtient la collaboration des hommes libres, ce qui n'est pas du tout pareil. On parlait de cela devant moi ce matin et on me disait, comme il n'y a plus de chef aujourd'hui, notamment comme il n'y a plus de pape, il y a nécessairement une division dans l'Église et on n'y peut rien, on ne peut pas remettre l'unité. Ce n'est pas vrai. Et on prenait comme l'exemple un orchestre. S'il n'y a pas de chef d'orchestre, c'est la cacophonie. Eh bien, ce n'est pas vrai non plus. J'ai joué dans des orchestres de musique ancienne et nous n'avions pas de chef. Dans la musique de chambre, vous n'avez pas de chef non plus. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup aimé cette musique ancienne, parce qu'elle suppose un accord des intelligences, des cœurs, des sensibilités. Elle suppose une écoute mutuelle pour arriver à un résultat commun auquel chacun participe et auquel chacun est fier de participer et heureux d'avoir donné ce résultat commun qu'il n'aurait pas pu donner tout seul. Et même quand il y a un chef qui doit dominer, soit à cause de la faiblesse des sujets, soit à cause de leur malice, malgré tout, il doit nécessairement y avoir un accord spirituel entre tous les membres de la société, parce que sinon, cette tyrannie n'est même pas supportable et elle ne peut porter aucun fruit. Si je vous dis tout cela, c'est parce que cela va trouver une application dans l'Église et notamment dans la situation d'aujourd'hui. Si on avait respecté le plan de Dieu, toutes les sociétés seraient à l'image des communautés religieuses, notamment des communautés bénédictines, qui sont un vrai modèle pour la vie religieuse, dans lequel le Père Abbé est très présent, mais Saint Benoît nous dit qu'il tient la place du Christ. Or, le Christ n'est pas un tyran, il tire vers le haut, il enthousiasme, il pardonne, il aide, il accompagne. Jamais le Père Abbé ne travaille pour soi, il travaille pour le bien de ses moines. Et la gloire de son monastère, parce qu'on va me dire il travaille pour son monastère, oui, mais la gloire de son monastère n'est pas une gloire matérielle, elle est la gloire d'être une réunion de saints. C'est cela que Dieu voulait pour toute la société des hommes, des rois qui ne soient pas des rois au sens moderne du terme, mais qui soient les représentants du Christ comme des pères abbés. D'ailleurs, Saint Benoît ne dit pas un roi dans le monastère, il dit un père abbé. Abbé veut dire père. Qu'est-ce qui va corrompre ce plan merveilleux de Dieu? Il y a deux causes à la dissolution de la société. Première cause, les gouvernements s'émancipent de Dieu, et alors ils deviennent des tyrans. Deuxième cause, les sujets recherchent les biens matériels. La première cause, c'est Nemrod. La deuxième cause, c'est Babel. Parce que le bien commun est nécessairement spirituel. Plus un bien est matériel, moins il peut appartenir à plusieurs en même temps, et donc moins il est commun. Et quand les peuples se mettent à rechercher les richesses, ce qui est le cas là, je ne vous ai pas lu toute l'Écriture sainte, ce serait trop long, mais on voit bien, et les pères nous le font remarquer, que l'humanité, en grandissant, se disperse à la recherche de riches terres. Ils veulent posséder. Nemrod veut faire une ville, voyez. Qu'avait-il de besoin d'une ville alors qu'il avait toute la campagne du monde à sa disposition? Et les sujets, pas seulement Nemrod, mais les sujets veulent des biens matériels et ils manifestent leur puissance matérielle par la construction de la tour de Babel. Maintenant, si nous appliquons cela à l'Église, cela devient beaucoup plus clair encore. L'unité de l'Église se fait dans la foi, dans la charité. La pratique de la foi et de la charité a son fruit dans les œuvres de miséricorde. Le gouvernement des évêques applique une unité à ces diverses œuvres. C'est-à-dire qu'il unifie les enthousiasmes, mais également il suscite l'enthousiasme, il favorise les hommes libres, il favorise des hommes rois qui prennent tous leurs responsabilités. Et l'évêque n'est jamais jaloux, de l'autorité de qui que ce soit. Et s'il n'y avait pas cette unité de la foi, de la charité, des œuvres de miséricorde, aucun gouvernement dans l'Église, aussi fort serait-il, ne pourrait maintenir l'Église. Or, à quoi assistons-nous dans l'Église aujourd'hui? Quelle est la cause et la nature de la crise dans l'Église? C'est qu'il n'y a plus cette unité de foi, d'espérance, de charité. Il n'y a plus l'unité dans les œuvres de miséricorde. Et il y a simultanément une tyrannie qui se manifeste par des exigences d'obéissance et en même temps une recherche des biens d'ici-bas, de la gloire d'ici-bas, comme à Babel, des biens matériels, comme les peuples qui se séparent au début de l'humanité. Je ne pense pas avoir le besoin de vous décrire tout cela. J'espère que vous le savez. Vatican II, c'est l'amour du monde, mais l'amour du monde dans ce qu'il a de plus bas, bien que ce soit caché sous des paroles qui paraissent hautement spirituelles. Je vous rappelle encore une fois le début du document clé du Concile, à savoir Gaudium et Spes, qui commence ainsi: les joies, les espoirs du monde de ce temps sont également les joies, les espoirs du peuple de Dieu. On ne peut pas dire plus clairement que le peuple de Dieu, comme ils appellent désormais l'Église, épouse les joies et les espoirs, prend elle-même les joies et les espoirs du monde de ce temps. Or, nous savons ce que sont les joies et les espoirs du monde de ce temps. Les joies sont un rêve perpétuellement déçu. Les espoirs sont des espoirs d'ici-bas qui se sont affranchis du désir du ciel. Quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est la division. Cette division ne vient pas de ce qu'il n'y a plus de chef, puisque, au contraire, il y a aujourd'hui, dans l'Église, un chef très puissant. Il est absolument certain que Bergoglio, dans sa tyrannie, a mis en œuvre une puissance, je parle bien d'une puissance, pas d'une autorité, a mis en œuvre une puissance que même Saint Pie X n'a jamais exercée. Je veux dire une violence. Lorsque Saint Pie X était obligé d'être énergique, il ne mettait pas dans son énergie une telle puissance ni une telle violence. Non, la division dans l'Église vient de la disparition de la foi et, là où elle demeure encore, de ce que la foi n'éclaire plus la route des hommes ici-bas vers le ciel. On prétend désirer le ciel, mais on n'éclaire pas la route à la lumière de la foi. Partout où cette faiblesse de la foi et cette faiblesse de la lumière de la foi se fait sentir, partout c'est la division. Partout où la route cherche à profiter des biens d'ici-bas et non pas à monter sur la montagne vers le ciel, c'est la division. Et cela est vrai dans l'Église, cela est vrai chez ceux qu'on appelle les traditionalistes, et, mes bien chers frères, au risque de vous décevoir, cela sera nécessairement vrai dans la fidélité catholique si la foi n'y est pas très vive et si elle n'éclaire pas puissamment la route des chrétiens. Saint Paul aux Corinthiens dit « Il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. » C'est-à-dire que les bons soient reconnus comme bons. Que leur unité dans la charité, que recommandait tellement notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il a recommandé à ses disciples juste après le repas de la scène et juste avant sa passion, c'est à cela qu'on saura que vous êtes chrétiens parce que vous vous aimez les uns les autres. Si la fidélité catholique vit de la foi, elle sera unie. Si elle ne vit pas de la foi, elle ne sera pas unie. Or, il est nécessaire qu'il y ait dans la fidélité catholique, comme dans l'Église, du bon grain et de l'ivraie, des chrétiens qui vivent de la foi et d'autres qui n'en vivent pas, c'est nécessaire. La fidélité catholique, ce n'est pas un château fort avec une enceinte, parce que cela, ce ne serait plus l'Église, ce serait du rêve. La fidélité catholique, ce sont les apôtres appelés au pied de la croix de Jésus et dont un grand nombre a fui, même s'ils reviendront. Je veux dire que la Sainte Vierge, Saint Jean, les saintes femmes sont restées fidèles au pied de la croix malgré tous les outrages, toutes les insultes et toutes les craintes qu'ils pouvaient éprouver, tandis qu'un grand nombre des apôtres, la plupart, se sont enfuis. Quel est le remède ? Saint Paul, 1 aux Corinthiens toujours, mais cette fois-ci au début. Saint Paul recommande de ne pas avoir de division parmi nous, mais à être parfaitement unis. Alors comment ? Je vous recommande de ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. L'esprit, qui est l'esprit de la foi, et le sentiment, qui est l'union des cœurs. Et aux Éphésiens, il dit qu'il leur demande de s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, pas seulement un seul corps, un seul esprit. Comme vous avez été appelés à une seule espérance, c'est-à-dire le ciel, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. Autrement dit, l'unité se fait dans le Saint-Esprit. Et si nous déplorons les divisions, le seul moyen de remettre l'union, c'est de travailler à la restauration de la foi, de travailler à la restauration de la charité et de travailler aux œuvres de miséricorde corporelles, bien, mais surtout spirituelles, les œuvres corporelles étant un soutien des œuvres spirituelles. Il faut que vous demandiez au clergé ce que dit saint Paul, la foi, la formation à la vertu, la mise en valeur des dons du Saint-Esprit. Il faut que chacun ait le souci de l'Église tout entière, non pour diriger, mais pour la faire vivre. Saint Paul, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. Pas une grâce personnelle pour un bien personnel, une grâce pour toute l'Église. Et puis nous verrons la prochaine fois ce que Dieu va demander à Abraham. Il va lui demander de sortir de cette cité riche, développée, que je vous développerai, dont je vous parlerai la prochaine fois. Mais il y faudra tout un sermon, parce qu'il ne suffit pas de sortir. Il y a des manières de sortir qui sont vraies, puis d'autres manières qui sont fausses. Puis encore faut-il vivre. Donc, la tour de Babel, avec sa division, est très rassurante, en ce sens qu'elle nous donne l'explication des divisions d'aujourd'hui, et que, en nous donnant cette explication, elle nous donne évidemment, a contrario, les remèdes à appliquer. Car les hommes ont été divisés, l'unité des langues n'a pas été refaite, mais par l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, l'unité des cœurs et des esprits a été refaite dans l'Église, même si tout le monde n'en a pas profité. Recourons encore une fois et toujours à la Très Sainte Vierge, non seulement à cause de son action, mais déjà parce qu'elle est un modèle. Marie est reine, mais elle ne règne pas en dominant, elle règne en ramenant à un esprit, l'esprit de son Fils, le Saint-Esprit, au pied de la croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.